Bon bah c'est quoi maintenant? Djiboutique, rediffusion? Djiboutique, rediffusion.
Aïe, 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 yambao. Aïe, aïe, yambao. Aïe, aïe, yambao. Aïe, 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 yambao. Vamos à l'école, niña. Vamos à l'école, gonzague.
Maintenant, on aimerait peut-être bien un petit peu replacer la rumba dans son contexte cubain. Donc, indéniablement, elle fait partie du paysage culturel cubain. Et peut-être en tant que néophyte, moi, j'ai l'impression, finalement, qu'elle semble être à la source d'un tas d'autres styles musicaux, de musique cubaine. Mais elle entend très peu parler, beaucoup moins parler de la rumba que du reste.
Oui, moi, je réagissais en disant, enfin, je ne sais pas très bien la source de quoi elle est, parce que... Pour moi, en fait, il y a énormément de choses qui se retrouvent dans la rumba. Elle-même, je sais qu'elle est source, entre autres, de la salsa, et de ça, on en parle beaucoup, c'est à la mode de plus en plus aujourd'hui. On commence à oublier un peu la mode africaine pour la nouvelle mode afro-cubaine. Et quand on parle de cours ou de cours de danse ou de chant afro-cubain, tout le monde croit qu'on parle de salsa. Mais bon, la salsa, même ça, déjà, on pourrait en parler déjà pendant des heures aussi. Puisque...
Oui, parce que son origine, c'est le son quand même. Hein.
Non, c'est
plus que la rumba. Ça va enfin...
Ouais, donc ça peut-être quelqu'un nous répondra à cette question alors, parce que moi je me sens pas spécialement à même vraiment parler de ça, dans le sens où tu le poses la question.
Oui, oui.
Alors je la reporte.
Olivier, tu veux peut-être.
Non, en fait j'étais juste en train de traduire à Pucho, qui n'avait pas compris.
D'accord.
Tout simplement.
Elle est chope à rime.
Non, mais peut-être.
Mais moi par contre dans l'autre sens, dans la rumba, on retrouve, mais on l'a déjà dit plus ou moins tout à l'heure, je crois, mais on retrouve vraiment. Toutes les cultures, et c'est pour ça que je crois que la rumba est aussi tellement riche, c'est qu'on retrouve dedans toutes les cultures qui sont sur l'île. Donc des différentes religions, de tous les cultes différents qui sont là, qui sont arrivés d'Afrique, d'Espagne, de tout ce qu'on veut, tous les mélanges qui sont faits pendant les X siècles d'habitation sur Cuba. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir à quel point... Moi, on va parler plus en tant que musique, hein, peut-être que Johanna, tu en parleras plus sur la danse, mais au niveau de la musique, c'est vrai que à tout moment, comme je disais tout à l'heure, les jeux de référence que les musiciens ont, on va avoir dans la rumba, tout d'un coup, un petit morceau, un break de rythme abakwa, avec une phrase d'arara qui débarque, et aussi bien au niveau des chants que de la musique. Donc, dans les chants, dans les chœurs, ça peut arriver à tout moment que le rumbero, il lance un chant carrément de la santeria, à Yoruba, ou de l'abakwa, et alors tout le monde reprend en chœur, et alors il va commencer à improviser autour de ce thème-là, et puis il va casser, et donc c'est vraiment, c'est d'une richesse incroyable, parce qu'on ne sait jamais dans quoi on part au début d'une rumba. On ne sait jamais où on va arriver. Ça va vraiment être en fonction de l'inspiration. Et même, c'est un chanteur qui va commencer, mais il est possible qu'il y en ait trois qui passent sur le coup avant que le morceau soit terminé. Parce qu'ils vont se piquer les chants. Donc ça marche toujours. C'est un peu le système africain dans la musique. Il y a chaque fois un lead qui chante et qui fait répéter un chœur. Et donc le chœur part en boucle et répète plus ou moins la même chose tant que le lead ne fait pas changer le chœur. Et lui commence à improviser autour. Donc le chœur qu'il lance en général... Soit il l'a plus ou moins inventé ce moment même parce qu'il était très inspiré, et alors il va commencer à improviser autour de pourquoi il a placé ce cœur-là et tout ce qu'il a envie de dire autour. Ou alors il va souvent prendre en référence de nouveau le chant d'un tel qu'il avait fait en 56 ou d'un autre qu'il a fait en 39, etc. Et ils vont aller récupérer comme ça des cœurs que les gens connaissent déjà plus ou moins, quitte à transformer parfois un ou deux mots dedans pour le personnaliser un petit peu. Ça, c'est au niveau de la musique. Et constamment, comme ça, on va avoir des références de différents cultes qu'il y a dans l'île. Et c'est ce que je trouve aussi assez incroyable dans cette musique. Donc la rumba, c'est pas une musique qui se définit par un style. En fait, elle se définit par, quelque part, tous les styles que les gens qui jouent et chantent connaissent. Si un chanteur connaît du rock, à la limite, il est capable de lancer une phrase de rock dedans. Il va épiquer une phrase de rock. Et ça va être très moderne, parce que ouais, t'as vu, il a osé faire ça. Mais il y a la liberté, y a une liberté comme ça extraordinaire d'expression et d'utilisation dans cette musique.
C'est vraiment cette idée d'aller-retour en fait, qui joue en permanence. En fait.
Je sais pas ce que tu entends par aller-retour.
Aller-retour de la rumba, finalement, qui fait un aller-retour et qui va chercher dans d'autres sources et qui revient à Cuba.
C'est-à-dire qu'il y a un module rythmique qui reste toujours. Le module rythmique de basse reste. C'est la clave. Mais disons que quand le chanteur commence, il commence en cante crondo ou en bantou. C'est les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a cet appel fabuleux du chanteur. Et en fait, le chanteur est très important dans la rumba parce que c'est lui qui tient le module mélodique. Il n'y a pas de mélodie, c'est de la percussion. Donc il n'y a que le chanteur qui tient dans la rumba. Et ça, c'est un style. Hein. Et avec des onomatopées comme ananana, 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 qui donnent en fait le tempo, qui donne vraiment la ligne mélodique, qui donne tout ça. Ça, c'est très important.
Il dirige
c'est
même
emprunté
la
à l'Andalousie ou au Bantou.
Il dirige même la percussion à travers ça, parce que la percussion va tout le temps respecter le chanteur. Donc elle va se tenir en retrait et va venir mettre des pointes rythmiques chaque fois que le chanteur laisse la place. Et c'est le chanteur qui va faire accélérer ou ralentir. Donc c'est vraiment le maître de cérémonie.
C'est le chanteur qui donne aussi la note émotionnelle, quoi. On a la chair de poule qu'un chanteur appelle. Bon, chez les Congons, on dit le gaio, donc le coq. Parce que le coq chante pour tout le monde, quoi. Ici, on ne le supporte pas, c'est très dommage. Parce que le coq, c'est la vie, c'est le jour, c'est la lumière. C'est très important.
Et justement, comme je disais, que quand on peut avoir plusieurs chanteurs sur le même rumba, c'est que si un chanteur commence à faiblir, en fait, dans le fait qu'il tire la chanson, il commence à manquer d'inspiration ou être un peu trop souple, parce que ça arrive aussi, très rapidement, il va avoir un autre chanteur qui va venir prendre la main. « Hé, à moi de parler !» Et hop, et il va commencer à lui reprendre. Et il y a un chanteur qui a perdu sa place, et un autre qui reprend et qui continue la chanson. Donc
C'est un dialogue constant.
Il y a aussi
constant.
Un combat de coq quelque part.
Un combat de coq, oui, mais justement, il y a toujours... Ce que je trouve, c'est toujours l'amour et la guerre. C'est-à-dire que même dans l'amour, il y a des stratégies. Donc dans la guerre aussi. Donc il y a toujours un aspect de séduction. En Afrique, par exemple, le guerrier, il se faisait très beau, justement pour influencer son partenaire, pour influencer son rival. Et donc cette rivalité encourage même les danseurs aussi. On danse et on danse pas tout le temps et on se défoule pas. C'est pas un défouloir. On danse des choses très précises qu'on dit. Comment est-ce qu'il s'appelle le directeur de Muñequito de Matanza, hein. Il dit moi en haut je suis andalou, en bas je suis africain. Là-bas je te raconte une histoire qui s'est passée hier et puis j'imite encore un animal. Et ça se passe en 3 minutes. Donc voilà, il y a une richesse terrible au niveau des styles, au niveau des rythmes, au niveau des mélodies. Il y a même de la musique chinoise, hein, puisqu'il y a eu une immigration chinoise très importante. Ce qui est malheureux, c'est que c'est la note indienne, c'est-à-dire que ceux qui étaient là au départ ont été tellement éliminés qu'il reste très peu, mais il reste quand même. Il paraîtrait que le guiro et tout ça viendrait quand même des Indiens, du départ, des habitants. Il nous reste le cigare, en fait. Des Indiens.
Une grande part de la richesse de la rumba, parce que j'ai un problème maintenant. Je ne sais pas si on parle de Jambou, de Guaguancó ou de
Colombia.
Il y a trois sortes. On reconnaît ou on connaît. Ou je connais trois sortes, oui. de rumba. C'est le Jambou, la Colombia, qui sont nés à Matanzas,
oui.
À côté de La Habana. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la musique des paysans.
C'est-à-dire, oui, la Colombia, c'était les ouvriers agricoles, oui.
Mais il y a des morsures de quelques mots africains.
Oui, très fort.
Et parfois, ça chante, alors même en Yoruba, qu'en Arara, oui. Pour moi, personnellement, c'est très difficile de reconnaître, distinguer. Mais aussi, le Guaguancó, il est né déjà à La Habana.
À La Habana.
Le quartier très... Comment se dit, Marie?
Mais c'est justement
le barrio,
le solar.
Un quartier tout à fait pauvre.
Marginal, pour le dire d'une
marginal
façon.
Marginal par leur pauvreté.
Voilà.
Mais urbain, de fait.
Le Guaguancó, c'est un résultat de la Colombie et de Jambou. Elle est un petit peu plus perfectionné. Les mêmes mots. Et les mots, c'est plus élaboré. Et le Guaguancó aussi, ça a été le journal.
La chronologie.
Voilà.
Et tout.
Samedi, oui. Au dimanche, en train de jouer le Guaguancó, ça a été le journal de la semaine, dans la quartier je ne sais pas, cette petite flat, on l'appelle à La Habana le solar.
Le cuarto,
solar. Solar.
C'est-à-dire que les solars, c'est les quartiers les plus pauvres de La Havane. Et en fait, c'était tellement pauvre, mais aussi dans le son de la Hanson, on dansait. En fait, les gens ont toujours dansé pour marquer les événements. Et donc,
il y était une sorte de journal.
Mais le même, alors, on se dit les nouvelles.
Le même s'est fait, comme on dit, voilà. Et la mort est aussi la guerre. Hein.
Oui, c'est
parfois,
ça.
Les personnes, ils vont se rencontrer. Oui. S'ils sont où? Un problème pendant la semaine, je ne sais pas.
Il y a des rumbas qui terminent
le dimanche.
Il y a des rumbas qui terminent.
Le dimanche, il va acclarer le.
C'est-à-dire que.
Situation de toque.
Oui.
C'est ça. Et je pense aussi une autre chose. Et il faut, je pense, parler de la création de la tumbadoras.
Ah oui, oui, bien sûr.
Mais les Africains, les esclaves, nous avons arrivé sans rien. Nous n'avons pas la chance de prendre les bagages pour partir. Et aussi, nous avons la sienne, notre instrument. Je trouve d'une manière extraordinaire, intéressante et forte. La mémoire, elle a besoin de reproduire tout ça qu'ils ont lâché
en Afrique.
Lâché à l'Afrique. Et il faut dire aussi que la tumbadora, c'est
il n'y avait pas de tambour.
On parle aussi d'un développement de la percussion africaine. Maintenant, la tumbadora, il peut s'accorder à un système musical.
Ouais.
Oh, il y a beaucoup de groupes africains qui jouent la tumbadora.
Bien, il a un système de clés qu'il peut s'accorder.
Ça les retour.
Aussi, il reconnaît la rumba, la tumbadora, il reconnaît un patron d'affination aussi. Mm. Il se joue avec la première, je pense qu'il parle de la première, la troisième et le quinto.
Ouais. Okay.
Le cinquième, que c'est le tam-tam pour faire l'improvisation.
Il y a trois notes donc, qui sont accordées en tierces, donc la tonique, la tierce et la quinte.
Aussi, l'origine de la tumbadora, c'est aussi, donc, en Afrique, on coupait un arbre, en général de manière rituelle pour faire un tambour. À Cuba, c'était plus compliqué, donc on récupérait des fûts de vin pour construire des tambours avec ça. Et c'est comme ça qu'a été créée la tumbadora, qui maintenant est revenue en Afrique. Il y a des Africains qui vont acheter des tumbadoras. Il y a la même chose qui a été faite avec le cajon. Le cajon, ça veut dire une caisse en bois. Donc pendant toute une période, la musique africaine religieuse était interdite. Parce que les Espagnols considéraient que tout ce qui n'est pas catholicisme, c'est religion du diable. Donc on ne pouvait pas vénérer Tchango ni aucun autre dieu africain. Les tambours étaient directement pris par la police quand il y avait des cérémonies. Donc ils jouaient sur des caisses de poissons, de bacalao. Et ça a créé cet instrument, le cajón. Et maintenant, le cajón, qui est un instrument donc cubain, avec des apports africains, et passé en Espagne. C'est-à-dire que c'est devenu un instrument d'accompagnement du flamenco. C'est l'instrument de percussion du flamenco. Et en Espagne, tout le monde pense que c'est un instrument traditionnel espagnol, alors que c'est quelque chose qui a été ramené d'Amérique latine dans les années 70. Donc c'est amusant de voir comment est-ce que tout se disperse. Ouais. Le cajón. Ouais. Oui, c'est tout à fait nouveau. Maintenant, en Espagne, tout le monde pense que c'est traditionnel espagnol et que ça fait des siècles, mais pas du tout, quoi. Ça vient de revenir d'Amérique latine.
Il y a aussi que ces instruments, donc ils n'avaient pas d'instruments, donc ils prenaient des caisses de bougies et des caisses de poissons, quoi.
Mmh, ouais, quelque chose.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ou n'importe, une porte, un tiroir, une cuillère, un verre, n'importe.
Mais le même, pour parler un peu de le mélange entre la musique africaine et la musique espagnole. Mmh. Aussi, on dit aujourd'hui, on va jouer un guaguancó à la manière espagnole. Ça veut dire qu'on va le faire traditionnel.
Del tiempo España.
Voilà, tempo, voilà.
Du temps de l'époque coloniale.
El tiempo España, voilà.
Et
on dit, on va jouer tiempo España.
Temps colonial.
C'est-à-dire quelque chose de structuré, plus structuré que.
C'est-à-dire du temps colonial, comme on le jouait au temps colonial, quoi. Voilà. Où on a emprunté des choses.
Sans les innovations, rien. Pur. On va jouer tempo España.
est bon. Pero hace muchísimo tiempo, Alexander, que vengo yendo por ahí, un pacún atravesado. Un atravesado con la clave, con la clave atravesado un pacún atravesado con la clave, con la clave atravesado un pacún. Pero hace muchísimo tiempo vengo yendo por ahí, todo eso atravesado. Sí, 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 sí. Un papataco, un paquín, paquín. Un chica, paquiqui, paquiqui. Papá, paquiqui, paquiqui. Bien.
Parce que pour les auditeurs, Ouamanko ou Yambou, ça ne veut rien dire. Donc, je veux dire, Yambou, c'est une danse de couple. Tu me corriges si je me trompe,
oui,
que les vieux dansaient jadis. Et donc, ces vieux restaient érotiques, comme dit Bataille, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que c'était d'une élégance extraordinaire. La femme est reine. Et l'homme tourne autour comme une abeille autour de la fleur, en fait. C'est ce que je dis métaphoriquement. Tandis que le Ouamanko, le Huahuanco met en scène vraiment une scène sexuelle, une intention sexuelle de l'homme vis-à-vis de la femme, sans la toucher. Mais quand même, c'est très clair. C'est très clair.
La, donc non, la femme, mais jamais,
non,
la
jamais la
toucher.
Jamais la toucher,
mais le geste est là.
Le geste est là, et donc la femme l'esquive sans arrêt.
C'est plus dans la théâtralité.
C'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide, et c'est une bataille en fait. C'est une bataille, et la femme est très experte dans le fait d'éviter. En fait, parfois les hommes plusieurs essayent et sans que la femme ne puisse le faire. Donc il y a des très grandes danseuses de Huahuanco.
Et
la Colombia, c'est une danse qui était dansée que par les hommes. Maintenant, avec les recherches, on dit que les femmes les dansaient dans le temps aussi, dans les temps coloniaux. Mais donc c'est des performances dansées extraordinaires par les hommes. Quasi acrobatique, mais où justement là les esprits entrent plus fort, tu trouves pas, Bucho?
Oui.
Donc souvent ça passe de la rara à la bakwa, ça passe, tout intervient, quoi, toutes les inspirations.
Mais lui, je ne me souviens de
Gauthier.
Gauthier lui a dit, il prend les éléments de n'importe quoi, c'est bon. Parfois il va danser à la manière bakwa,
une autre fois, voilà, ça dépend du danseur.
De manière rara, c'est
on est possédé,
je pensais une manifestation de richesse. Ça donne une démonstration de la universalité de la musique elle-même.
Tout à fait.
C'est deux cultures qui se sont trouvées en un moyen difficile. Une personne en train de conquérir, une autre
voilà,
personne en train d'être
esclavisée. Oui.
Mais la musique, comme moyen de réunification.
La musique le fait, l'accord entre tous.
Une autre fois.
Ils communiquent malgré eux dans le temps. Quoi.
Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est dans le but de réconcilier? Ou simplement
non,
parce qu'il y a différentes influences?
Je pense pas volontaire. C'est simplement une conséquence d'être ensemble avec une personne.
Voilà. C'est la musique qui fait ça.
La musique, c'est un moyen d'unir. C'est un...
Mais je
parle de la musique.
C'est pas volontaire,
de tout le monde.
Puisqu'il y a eu une lutte. Il y a 400 ans d'esclaves,
c'est
donc c'est certainement pas
aussi,
les maîtres qui ont vu la musique des esclaves.
C'est une démonstration aussi que nous avons quelque chose en commun.
Voilà.
Tous.
La musique, oui.
C'est un exemple, c'est la musique, mais c'est ça. Personne que ça va retrouver dans un endroit difficile, très dur pour les deux côtés, mais ils sont capables de trouver un moyen de confluer, je ne sais pas si ça c'est dit en français.
De se rejoindre.
De se joindre. C'est le Huahuanco, Tempo España, Colombia, Yambú.
Oui, et ce qui est terrible, c'est que ce sont des danses profanes, tout à fait profanes, mais où le religieux entre sans arrêt. Alors ça, c'est fabuleux, parce qu'en fait, il n'y a pas de ligne de séparation. Il y en a une, on dit c'est une danse profane, mais en fait, les esprits, ils s'en foutent. Hein. Une fois qu'on danse, qui tu veux vient te rendre visite.
Mais parce que les gens sont très croyants aussi à Cuba. Et que le fait de commencer à bouger, à danser, à chanter, inévitablement, touche aux esprits aussi. Les gens sont très croyants.
Ça plaît beaucoup aux esprits, les danses.
Bah oui, que justement c'est un apport. Bon, il y a du religieux dedans, mais c'est un des apports culturels africains. Bon, il y a beaucoup d'apports culturels africains religieux à Cuba, toutes les différentes religions. Il y a Arara, il y a la Santeria, la Bakwa, la Regla Conga, et les gens peuvent appartenir aux différentes religions. Ce n'est pas comme ici où
voilà,
on
ça.
A tendance à ou être musulman ou être chrétien. Là, on peut être sans problème à Bakwa et en même temps aller à un
toque et catholique, en même temps,
Congo,
franc-maçon,
et franc-maçon, et voilà quoi. Et donc il y a eu beaucoup d'apports religieux à Cuba, c'est-à-dire que pendant les cérémonies, les gens parlent encore des langues africaines. Et la rumba est une musique et une danse qui évidemment pas récupéré mais synthétisé tout ça, mais sans que ça soit pour un but religieux. Maintenant il y a des choses qui ressortent de temps en temps. Un danseur pourra danser comme un diablito dont tu parlais avant, c'est-à-dire un homme masqué qui fait partie de la religion abakwa.
Un irime,
voilà. Mais sans pour autant que ce soit dans un but. Voilà.
Bon, ceci dit, j'ai envie de rajouter quelque chose. Tu disais pas dans un caractère ou pas dans une intention religieuse. Il existe aussi des rumbas spirituels donc, qui sont destinés justement à faire venir les esprits et Et donc ça, ça existe aussi. C'est un, oui, c'est un autre revers de ce que...
Mais c'est pas spécifiquement les pas de rumba. On appelle ça les rumba de los muertos.
Non, non, non. Mais au niveau, de la, au niveau de la musique, ça, ça, ça correspond au style de la rumba.
Ouais,
c'est
oui,
ça,
absolument,
que je veux dire. Donc avec un chanteur, mais clairement, les chants sont axés...
Et les chants sont carrément sont, catholiques
sont
et congo.
Catholiques, hein, catholiques et congo. Ouais, et donc... Et voilà, mais bon, ça, voilà, ça, c'est pour dire que ça existe aussi,
oui,
ce côté-là de la rumba.
Rumba, le mot est tellement vaste, c'est comme le mot jazz, hein, tu vois. Et tu disais que, bon, on ne savait pas beaucoup sur la rumba, finalement. Sur... Mais en fait, le jazz est une musique forcément très connue maintenant, mais c'est quand même pas la musique qui se vend le mieux. Mais elle est incontestablement riche, quoi. Mm-hmm. Elle est, et elle se refait tout le temps.
Et la rumba se veut voilà, quand même, comme tu disais tout à l'heure, tu soulevais la clave. Bon, oui, la clave, elle se retrouve dans toutes les musiques cubaines, donc c'est pas elle qui va la définir. Non. Mais il y a un pattern des tambours voilà, qui va faire quand même que c'est une rumba. Hein, qui est le fameux kung, king, king, kung. Hein, si je ne vais pas plus loin que ça. Hein, que tu retrouves en waranko. Ce pattern rythmique qui se met au niveau de la clave, c'est ce qu'on va appeler la rumba. Quoi que tu fasses au-dessus
voilà,
après, quoi que tu chantes, quoi que tu danses, à la limite, c'est une rumba. Et dans ce que dit Gwen, c'est que dans les rumba spirituelles, en fait, ce pattern rythmique est respecté, donc c'est clairement une rumba au départ, mmh, aussi, mais dans un but totalement religieux, en effet, à ce moment-là. Mmh. Mais comme tu dis, qui sont plus pour faire des louanges aux ancêtres. Donc on est, pas on est dans le présent pour les vivants, mais c'est surtout pour se mettre en paix par rapport à tous ces ancêtres, donc tous ceux qui sont
morts. Mais ça vient de l'Afrique, hein, on ne peut pas vivre sans les morts, quoi.
Non, tout à fait.
On ne peut pas vivre sans ces morts. Les morts, on les porte avec nous. Donc, ça, c'est une composante africaine, ah oui, une réalité extraordinaire. Donc, nous, on veut vivre sans les morts, on ne veut pas les voir. Ils sont là. Donc, pour eux, c'est leur force. Et en même temps, bon, tous les rituels africains, les plus importants, ce n'est pas tellement ceux où on s'amuse, c'est ceux où on honore les morts. C'est ceux, les funérailles. Il faut que le mort meure bien et qu'il soit un bon ancêtre et qu'il aille du bon côté. Mm-hmm. Et c'est les vivants qui s'occupent de ça. Donc ça, c'est quand même un apport que l'Afrique nous donne et qu'on a beaucoup à prendre de ce côté-là.
Ouais. Ici, on a tendance à penser qu'une fois que les morts sont morts, ils n'agissent plus, tandis que voilà, en Afrique ou dans les différentes régions d'Amérique latine où il y a une influence africaine forte, les morts, bon, ils sont morts, mais ils agissent encore. Ce qui se passe sur cette terre, ce qui se passe au jour le jour, c'est les morts qui agissent, qui influencent.
C'est-à-dire
ça,
que
c'est pour ça qu'il faut apprendre à...
C'est pour ça qu'on vit pour bien mourir, pour être un bon ancêtre. Parce que quand on n'est pas un bon ancêtre, on n'influence pas bien les vivants. Donc il faut être un bon ancêtre.
Mais
et donc les vivants doivent faire en sorte, et c'est la danse qui fait ça. Mm-hmm. C'est en dansant qu'on mène l'ancêtre et qu'il va aller là où il doit être. Donc c'est quand même... C'est très riche par rapport à la philosophie de vie, à la vision du monde, à tout ça.
Mais ils ont raison.
Qui
hein,
est tout à fait présent à Cuba
mais
aussi.
Mais je pense qu'avant, c'était comme ça aussi, ici. Mais que maintenant, comme les gens sont de moins en moins croyants, ça l'est moins. Mais enfin, je vois ma grand-mère, elle est persuadée que les esprits aussi...
Oui, mais c'était le paradis. Tu étais au paradis, ou tu étais en enfer, ou tu étais... Là, ils reviennent, mm-hmm, voilà.
Ils peuvent posséder quelqu'un.
Voilà. Ouais. Un grand-père peut revenir dans un petit-fils, par exemple, mm-hmm, en Afrique occidentale. Mm-hmm. Et on le sait, on dit, ah, ça, c'est le grand-père qui est revenu, par exemple.
Mais tout en restant totalement européen, je veux dire, on vit avec nos morts. C'est quelque chose qu'on ne peut pas renier.
Non, on peut pas.
Je veux dire, que ce soit ton frère, ton père, ta sœur ou tes enfants, dans le pire des cas, je veux dire, les personnes proches de toi, ou un ami, les personnes proches de toi que tu as connues dans leur vivant, qui sont morts, font partie de ton souvenir. Et ils ont une fonction réelle dans ton souvenir, émotive, qui va te faire, toi, réagir d'une certaine manière. Et donc, si tu es bien avec tes morts, tu vas quelque part être bien dans ta vie. Si tu es mal avec tes morts, tu vas être mal dans ta vie. Et dans ce sens-là, ils ont tout à fait raison. Je dis, même sans être religieux, parce que moi, je ne suis pas spécialement religieux, mais je dis, les morts ne sont pas une religion, les morts sont une réalité, je veux dire, qu'on possède tous. Et j'ai été invité à un tambour pour les morts aux Egun à Cuba il y a quelques années. Et j'étais assez étonné parce que moi j'ai toujours un peu l'impression quand on va au tambour, etc., qu'on va au tambour des autres. Tu vois, on va pour Oya, on va pour Chango, on va pour ci, on va pour ça. Et tu dis toujours, c'est les autres. Enfin, moi, n'ayant pas passé les initiations religieuses là-bas, je les étudie, je m'y intéresse pour la musique, pour les rites. Mais je ne suis pas rentré dedans, je ne suis pas intégré à la religion. Donc j'y vais toujours un peu pour les autres. J'y participe avec mon émotion et je vais pour les autres. Et j'étais assez frappé que quand on est allé à ce tambour pour les morts, j'avais demandé au gars qui nous accompagnait, qui était Wilmer Ferran, qui est un super chanteur, danseur, percussionniste de Camagüey, et je lui ai dit, ben, on va pour fêter quelle mort? Et il m'avait répondu, mais chacun va avec ses propres morts.
Ouais.
Et ça m'avait fait réfléchir,
oui,
et je peux te dire que dans la cérémonie, je me suis rendu compte, je me suis retrouvé confronté à mes morts, et que chacun était confronté à ses morts, et que chacun va vivre cette cérémonie de manière très différente, avec les mêmes chants, les mêmes danses, mais t'as une... un truc social qui monte, parce que ça, c'est la force, je trouve souvent, que ce soit dans la rumba ou dans les santeria ou autre chose, c'est que tu as une force sociale qui se met en mouvement avec la musique, avec les chants. Tout le monde chante, tout le monde danse, et il y a quelque chose qui monte petit à petit, que ça en chacun. Mm-hmm. Qu'on soit religieux ou qu'on ne le soit pas, c'est inévitable. C'est, je crois que c'est quelque chose d'humain, c'est cette force, une énergie, une force sociale qui se dégage. Et après ça, chacun va commencer à vivre justement par rapport à ses propres... Bon, là, dans le cas du tambour pour les morts, ça va être, chacun va mettre ses morts en avant-plan, mais quand ça va être pour Django, pour quelqu'un d'autre, chacun va mettre sa partie de Django ou d'Oya, machin, en avant, et va être plus ou moins sensible, du coup, à partir en transe ou à participer à la situation. Mmh. Mais il ne faut pas être religieux pour fonctionner là-dedans. C'est, je trouve ça étonnant. C'est quelque chose de purement humain, je trouve.
Oui, et puis il y a une phrase, Lukumi, qui dit que les dieux, puisque tu parles des morts et en même temps des dieux. Django est un dieu, oui. Mais on dit que ce sont les morts qui ont engendré les dieux, en fait. Hein. Donc, voilà, même les dieux seraient des morts.
Mais Django qui est un orisha, donc un,
il est, oui.
donc un dieu, un une divinité, ben justement, c'est un roi qui a existé.
Voilà, c'est ça.
Donc, oui.
Qui a existé au Nigeria.
Qui a existé au Nigeria historiquement, quoi.
You say no, you say stop. ding. Hello.
D'écouter une rediffusion, rediffusion. La DJ boutique, pardon.
Au pôle
plan. La DJ boutique.
Au pôle plan.